Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'orchestre de Montpellier, au Corum, hein, dans les locaux de l'orchestre, et nous sommes accueillis dans sa loge après une répétition par Théotime Voisin, contrebassiste, hein, qui était en train de répéter avec l'orchestre un concert qui va avoir lieu prochainement avec un concerto de Bottesini. Bonjour Théotime Voisin.
Bonjour.
Alors, donc, j'ai dit, vous êtes contrebassiste. Votre poste principal actuellement, c'est l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. C'est comme ça qu'on dit Alors, j'entends des fois Concertgebouw, Concertgebouw.
En néerlandais, c'est plus Concertgebouw.
Concertgebouw. Voilà. D'Amsterdam, hein, un orchestre célèbre s'il en fut, où vous êtes contrebasse co-solo. Alors, première chose, cette contrebasse, ben on connaît l'instrument, nos auditeurs connaissent ça au moins par le jazz et beaucoup de musique où on entend la contrebasse. Mais c'est un instrument qui est beaucoup plus varié, j'ai découvert, que ce qu'on pense en général. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre instrument ?
Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre la contrebasse dans le jazz, c'est là qu'on la remarque le plus, en accompagnement dans les musiques populaires, tout ça. Moi, ce qui m'a toujours touché, c'est qu'en fait, la contrebasse, c'est un instrument comme un autre. Avant tout, c'est un instrument qui est fait pour chanter, parce que je pense que c'est ce qu'on a toujours essayé de faire avec les instruments, c'est d'imiter la voix humaine, de reproduire les sons qu'on a entendus. Et c'est vrai que c'est une dimension pour moi qu'on ne connaît pas assez de cet instrument. Donc ça m'a toujours intéressé d'aller chercher ce côté lyrique de la contrebasse. Donc c'est vrai, tout ce qui est plus dans le répertoire soliste, tout ce qui va mettre un peu sur le devant de la scène ces capacités un peu méconnues du grand public.
Alors, et puis il y a eu tout un tas de contrebasses différentes, hein, puisqu'il y a eu des contrebasses à 3 cordes, à 4 cordes, à 5 cordes, des gros violoncelles, des petites contrebasses, des contrebasses absolument gigantesques. l'instrument dont vous jouez, comment on pourrait le caractériser par rapport à l'ensemble de tous ces instruments ?
Alors, le meilleur, disons que c'est la contrebasse moderne, elle a 4 cordes. Je dirais pas qu'elle a une taille standard, parce que plus l'instrument est gros, plus il y a de variété de taille. Donc c'est vrai qu'au cours de l'histoire, la contrebasse vient de la basse de viol, donc cette espèce de gros violoncelle qui servait de basse dans la musique baroque, ça s'est ça s'est agrandi. Au début, il y avait que 3 cordes. Bottesini, notamment, que je vais jouer. Le concerto que je vais jouer, ça a été écrit pour une contrebasse à 3 cordes, qui n'avait pas encore la corde grave. Ensuite, plus tard, la corde grave est arrivée. Et puis les grands symphonistes, Berlioz, ensuite Bruckner, Mahler, tout ça, ont encore voulu étendre le registre. Donc ça a favorisé l'émergence de la 5e corde, qui est encore plus grosse. Mais c'est vrai que la contrebasse 5 cordes, on va jouer principalement dans l'orchestre. Moi, ce que je vais jouer là, c'est une contrebasse à 4 cordes, qui est un tout petit peu plus petite, disons, que les contrebasses standards, pour un certain confort, et voilà, pour aller chercher un peu plus de virtuosité.
D'accord. Alors, donc vous avez l'habitude de la contrebasse solo, hein, ce qui est pas forcément très très... Il y a un répertoire conséquent, mais quand même moins conséquent que le violon, on va dire, par exemple.
Heureusement.
mais je me disais, la contrebasse à l'orchestre, alors souvent, voilà, vous avez cité Mahler, Bruckner, voilà, tous ces compositeurs post-romantiques, mais on a parfois l'impression... alors les contrebasses, ils aiment bien, ils en mettent, allez, on en met 8 au lieu des 3 ou 4 habituels. Mais en termes d'écriture, est-ce qu'il y a, pour vous, lorsque vous êtes à l'orchestre, est-ce qu'il y a des compositeurs qui écrivent mieux pour la contrebasse, d'autres qui sont moins intéressants? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Parce que c'est un instrument, bon, on l'entend. De là à l'écouter spécifiquement dans une œuvre symphonique, peut-être pas.
Ouais, en fait, je dirais pas qu'il y ait des compositeurs qui écrivent mieux ou moins bien. Déjà, ça dépend des goûts, de ce qu'on aime faire. C'est vrai que si on prend la période classique, la contrebasse a émergé de la partie de violoncelle, la partie de basse. Donc au départ, elle est très similaire à la partie de violoncelle. Donc il y a aussi un certain... C'est une certaine satisfaction d'abord à doubler une octave plus bas... la partie violoncelle. Après, ça a petit à petit, à partir de Haydn, Beethoven, et puis encore plus après Mahler, Strauss, ils sont vraiment allés créer une partie spécifique. C'est vrai qu'il y avait de plus en plus de virtuoses à ces époques-là qui ont pu inspirer les compositeurs. Donc, en fait, c'est vrai qu'on remarque que, disons qu'avec le temps, dans les pièces orchestrales, la partie de contrebasse a aussi une place de plus en plus mélodique et de plus en plus sur le premier plan selon le registre que le compositeur veut utiliser dans l'orchestre.
D'accord. Alors, vous allez jouer donc là un concerto de Bottesini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce compositeur ?
On peut dire beaucoup de choses. Il est malheureusement très méconnu, mais en son temps, c'était un musicien très très réputé. Il était comparé à Paganini à son époque. Il était invité partout dans le monde pour ses talents de contrebassiste virtuose, mais aussi c'était un chef d'orchestre très très fameux. Entre autres, un ami de Verdi, il a créé Aïda. Il a fait beaucoup d'opéras. Il baignait dans toute cette culture italienne du bel canto du 19e siècle. Donc, pour nous, c'est une chance extraordinaire parce que ça nous a amené tout un répertoire évidemment soliste, virtuose, mais en plus qui est complètement abreuvé du lyrisme italien de cette époque. Et donc c'est exactement ce que je vous disais avant, par rapport au côté lyrique de l'instrument, c'est le meilleur répertoire pour montrer cette partie complètement méconnue de la contrebasse.
D'accord, une contrebasse donc qui chante, qui fait des acrobaties, qui est virtuose aussi, j'imagine. Quand on dit Paganini, si on dit que c'était le Paganini de la contrebasse, on peut imaginer ce que ça peut donner, même si ça paraît compliqué. La contrebasse, c'est un instrument qui est populaire. Il y a peut-être des jeunes qui voudraient s'y mettre. Vous leur conseilleriez quoi ? Est-ce que c'est un instrument qu'on peut commencer tôt ou est-ce qu'il faut, j'imagine, un tout petit, ça va être difficile, encore qu'un violoncelle, un bassiste de jazz avait baptisé son violoncelle un piccolo basse.
Ouais, non, c'est vrai. Non, en fait, ça fait déjà, je dirais, une dizaine d'années au moins, voire plus que le... La contrebasse s'est beaucoup ouverte pour les petits. Moi, j'ai commencé à 5 ans et demi. C'était encore assez rare à l'époque. J'avoue que c'est grâce à Jean Hanné, donc contrebasse solo à l'Orchestre de Montpellier, avec qui j'ai commencé, qui n'avait pas peur de faire commencer les petits sur la contrebasse. Évidemment, il y a des instruments adaptés. Avant, qui étaient plus difficiles à trouver, je me souviens qu'à l'époque, on était monté à Paris chercher un 16e de contrebasse, qui était effectivement la taille d'un violoncelle, mais ce n'était pas un violoncelle. Aujourd'hui, on en trouve partout des mini-contrebasses. Il y a des unités qui sont mises, il y a plein de stages, d'initiations pour les enfants. On en voit de plus en plus des troupeaux de mini-contrebasses. Vous en verrez si vous venez au Mardi Grave, dernier concert. Il y a toujours un ensemble de contrebasses avec tous les âges. Donc je dirais que ça se fait de plus en plus de commencer tôt, et tant mieux.
Tant mieux. Ouais. Oui. La musique, c'est plus on la commence tôt. Mieux c'est, quoi.
Non, puis pour les enfants, c'est un instrument aussi... Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup parlé parce que ça fait sa taille, c'est rassurant, c'est son copain quand on est petit. C'est un violon, c'est petit, on ne peut pas se cacher derrière un violon. Une contrebasse, dans un sens, je trouve ça... Enfin, mes sensations quand j'étais petit, c'est que voilà, ça fait un compagnon rassurant. Et je vois souvent les enfants, quand ils commencent, ils aiment bien ce côté-là. Je pense que c'est ce qui les attire aussi.
D'accord, un côté rassurant comme ça de la contrebasse, par sa masse, on peut se cacher derrière quasiment.
Sur scène, on est moins seul.
c'est sûr. On parle de scène, donc vous êtes, on le disait au début de cet entretien, vous êtes co-solo au Concertgebouw. Hein, je ne sais pas si j'ai prononcé correctement, ça fait rien, tout le monde sait, c'est Amsterdam, voilà. Mais vous êtes passé déjà par d'autres orchestres, alors que vous avez tout juste 30 ans, notamment de l'Orchestre de la Suisse romande, le Capitole de Toulouse. Est-ce qu'il y a des différences de style que vous percevez en étant musicien dans l'orchestre, de façon de faire, de sonorité, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais... Pour un amateur, on le repère pas forcément bien.
Ouais, c'est vrai que l'auditeur perçoit le résultat, mais De l'intérieur, ouais, tous les orchestres sont très différents. Certains sont portés par une certaine école, une certaine influence, d'autres par une autre complètement opposée. Ce qui va faire avant tout qu'un orchestre marche bien, c'est l'atmosphère entre les musiciens. C'est pas le niveau, c'est l'ambiance qu'il y a, parce qu'on est une équipe, on joue ensemble, et le plus important, c'est de réussir à jouer ensemble. Si en plus les musiciens ont un très bon niveau, magnifique. Mais c'est vrai que j'ai connu des orchestres où les musiciens pouvaient être très forts individuellement, mais ils n'arrivaient pas à avoir une bonne atmosphère de travail, de jeu ensemble. Donc c'est dommage parce que ça marche moins bien. Après, oui, c'est vrai, entre la Suisse romande, le Capitole, le Concert de Gebo, c'est tous les trois des orchestres très différents. La Suisse romande, ouais, on se rapproche un petit peu du côté un peu germanique, même si bon, c'est quand même. C'est un mélange intéressant, un peu une enclave française dans un pays qui se tourne un peu vers l'Allemagne aussi, donc ça se ressent au niveau de l'influence musicale. Le Capitole, oui, c'est un des meilleurs orchestres français, donc là on a toute la tradition, le son aussi est différent, avec toute l'influence de Plasson, donc on va jouer la musique française particulièrement d'une certaine manière. Le concert de Gebo, c'est encore quelque chose de très différent parce qu'on est une vingtaine de nationalités, on vient de partout. Et c'est un orchestre qui va moins appartenir à une école, mais plus à une idée sonore. Donc chacun arrive un peu comme il veut avec sa technique et sa sensibilité. Et ce qui fait que ça marche bien, c'est que tous les musiciens veulent aller dans le même sens. Et que ce soit à vélo, à pied, en voiture, chacun avec un peu son école, sa technique, son bagage. Et c'est ça qui le rend assez unique.
Oui, puis vous évoquez pour Toulouse la marque, je dirais, posée par Michel Plasson. Je dis le concert de Gebo, il doit y avoir aussi des traces depuis Mengelberg, Haitink, Janson, il me semble, ces dernières années aussi. Et bon, j'en oublie beaucoup. C'est pas rien. Est-ce que ça. Ben, je veux dire, quand vous êtes arrivé, vous avez su que vous étiez recruté pour cet orchestre-là. Est-ce que ça vous a impressionné ou est-ce que ça vous a rassuré ou.
Ah, c'est vrai que un peu, il y a un peu tous les sentiments qui se bousculent dans la tête parce qu'évidemment, déjà, on n'en revient pas, on est impressionné, rassuré, comme vous dites, parce que bon, on a été sélectionné par les musiciens de l'orchestre, donc c'est une certaine reconnaissance. Ouais, il y a de l'excitation, et après, on sait qu'on va, en fait, on va continuer à apprendre énormément. À chaque fois qu'on change d'orchestre, dans un sens, on réapprend un langage, on en réapprend les traditions de cet orchestre. Ça ne nous empêche pas de ne pas oublier notre propre bagage, mais les orchestres, c'est vraiment des mélanges. Et il faut le temps d'être imprégné par l'orchestre qu'on intègre aussi. Bah, c'est que moi, c'est ma 7e année, là, donc je commence un peu à bien saisir, mais on est encore toujours, on redécouvre des choses tous les matins sur la manière de jouer, la sonorité qui est proposée. Donc, ouais, c'est vrai qu'un orchestre comme le Concert de Gebo, il a été marqué ouais, par Bernhard Haitink, pour aussi tout ce qui est musique française, Shostakovich, tout ça qui a beaucoup développé. Janson, après, qui a amené beaucoup la musique russe et les malheurs. Donc, Ouais, on entre un peu dans une maison où sur chaque mur il y a une tradition et on ouvre à chaque fois un placard différent pour aller chercher un son différent. C'est ça qui est très enrichissant. Ouais.
Oui, j'imagine du coup, entre les contrebasses du pupitre donc du concert de Gebo, il y a aussi des échanges et vous apprenez aussi des choses mutuellement, j'imagine, non?
Ah oui, complètement, complètement. Déjà, par exemple, on est 10 contrebasses, sur les 10, on est 4 français, mais on n'est pas 4 à jouer de la même manière. On est tous allés étudier un peu partout, on a tous un peu développé nos techniques, on a été influencés par nos différents professeurs, et puis on se retrouve à jouer ensemble et ouais, on s'observe, on s'écoute. Il y a des choses qu'on va aimer, qu'on va prendre, on va s'inspirer.
Alors, vous dites bon, il y a des différences techniques. Bon, on comprend qu'il y a des professeurs qui ont chacun leurs habitudes. Alors, pour illustrer pour nos auditeurs, ces différences, elles tiennent à quoi? C'est une technique de garcher, c'est une technique de doigté, c'est des positions. Qu'est-ce qui fait que il y a des techniques et du coup des sonorités différentes?
Oui, alors ça peut. C'est compliqué à expliquer parce que ça peut être des détails infimes. Effectivement, techniquement, de tenue d'archet, de position, au centimètre près dans les mains, les doigts de la main droite. Est-ce qu'on va mettre son premier doigt plus ou moins comme ça sur la baguette, avec quelle force on va le tenir, le pouce enfoncé sous la baguette ou pas, ce genre de détails. La main gauche, quelle position, quel doigté on va choisir. C'est beaucoup de petits détails comme ça. Ça peut être aussi dans la conception musicale, un peu du son, comment on va naturellement attaquer un son, comment on va le percevoir, le concevoir. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on échange des idées, parce que des fois, on est un peu dans ce qu'on a appris et on entend quelque chose de nouveau, on a envie de l'intégrer. Donc c'est comme ça qu'on continue à s'enrichir. Oui.
Alors, on parle du coup de transmission, et dans le cadre des Mardis Graves, hein, vous allez donner une masterclass, je vérifie sur mes petites notes, c'est le 7, hein, sera donc au Conservatoire de Montpellier, hein, Cité de la Musique, et puis il y aura un récital le soir. Alors, comment vous vous préparez, vous, à une masterclass, et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez dans une masterclass, et à qui ?
Ouais, alors ça, c'est, je dirais, la préparation d'une masterclass, c'est être prêt à tout. Parce que, par exemple, celle-ci, mardi prochain, je ne sais pas du tout quel est le niveau des élèves que je vais avoir, quelles sont leurs intentions d'études, s'ils font ça pour le plaisir, s'ils ont des intentions professionnelles. Je ne sais pas ce qu'ils vont me jouer. Alors, j'aborde ça, disons, avec le plus grand spectre d'attentes, où il faut être prêt à tout. Donc, bon, je pense que je connais une grande partie du répertoire, donc ça ne devrait pas être un problème. Mais je dirais que c'est vraiment sur le moment que c'est important de savoir s'adapter à l'élève qu'on a en face. Parce que si on a affaire à quelqu'un qui a envie d'être professionnel, on va lui faire cours différemment pour essayer de lui inculquer un peu les bases du qu'est-ce que c'est un concours d'orchestre, qu'est-ce qu'il faut travailler pour intégrer un orchestre, quel est le répertoire intéressant à la contrebasse, comment le défendre. Quelqu'un qui va être qui fait ça un peu plus en amateur, on va plus le motiver, le pousser, lui faire plaisir, évidemment l'intriguer aussi par ce qu'on peut faire avec une contrebasse, mais disons de manière un peu plus détendue, moins compétitive. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et oui, il faut être prêt à tout. Donc,
prêt à tout. Et donc chacun va venir avec le morceau, le ou les morceaux qu'il aura travaillé, ou elle aura travaillé, et puis...
Voilà. Après, c'est à nous, en tant que professeurs, de être prêts à rebondir si, en sentant dans quelle direction cet élève se place, lui faire découvrir éventuellement d'autres pièces. C'est très intéressant, c'est une grande inconnue, les masterclass, c'est ça qui est sympathique.
Bon, l'inconnu pour nos auditeurs, pour connaître ce que c'est le travail de la masterclass, l'entrée est libre, hein, je crois, donc il faut peut-être juste s'inscrire. Donc c'est le 7 à la Cité des Arts à 15h, et puis il y aura un récital avec les élèves ou...
Non, ce sera juste un petit... Ouais, j'appellerai pas ça un récital avec un grand R. Ce sera un petit
concert. C'est ce qui est marqué sur le programme.
Disons, l'idée, c'est de faire un petit concert pour ce que c'est vrai que les professeurs, on les entend beaucoup parler. Ils montrent un petit peu sur l'instrument, mais on les voit rarement, disons, en condition.
D'accord.
Donc l'idée, c'est je fais une grosse demi-heure de concert avec quelques pièces du répertoire pour un peu montrer aux élèves aussi ce qu'on peut faire.
En solo, donc là, en contrebasse, solo, solo.
Contrebasse et piano. Contrebasse et piano.
Contrebasse et piano, d'accord. Bien, merci beaucoup Théotime Voisin pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, il y aura encore quelques répétitions pour Bottessini ou ça y est ?
Alors oui, on a la générale demain au Théâtre de la Vignette. Et puis le premier concert demain soir à la Vignette, donc... On va voir, il y a 5 concerts, donc ça...
Vous aurez le temps de roder tout ça.
Le temps de s'améliorer. Bon.
Merci beaucoup, et bon concert et bonne masterclass.
Merci beaucoup. Au revoir.